« Requiem aeternam dona i domine », entonnait le chapelain. Dominicain en disgrâce, qu'un sort contraire et le goût du vin avaient fait échouer à cette desserte de prison, le chapelain, tout en chantant, se demandait si le changement de règne n'apporterait pas quelques modifications dans sa propre destinée. Il résolut de ne plus boire pendant une semaine pour mettre la Providence dans son jeu et se préparer à accueillir un événement favorable. « Et lux perpetua luceat ei », répondait le capitaine. En même temps, il pensait « On ne saurait me faire de reproches. J'ai appliqué les ordres que j'ai reçus, voilà tout. Mais je n'ai point infligé de sévices. » « Requiem aeternam », reprenait le chapelain. « Alors, on va point même nous bailler un sautier de vin ?» chuchotait le soldat Gros Guillaume au sergent Lalaine. Quant aux deux prisonnières, elles se contenaient de remuer les lèvres, mais n'osaient prononcer le moindre répond. Elles eussent chanté trop haut et trop joyeusement. Certes, ce jour-là, dans les églises de France, il se trouvait beaucoup de gens pour pleurer le roi Philippe, ou croire qu'il le pleurait. Mais en vérité, l'émotion, même chez ceux-là, n'était qu'une forme d'apitoiement sur eux-mêmes. Ils s'essuyaient les yeux, reniflaient, hochaient le front, parce que, avec Philippe le Bel, c'était leur temps vécu qui s'effaçait. Toutes les années passées sous son sceptre, presque un tiers de siècle, dont son nom resterait la référence. Ils pensaient à leur jeunesse, prenaient conscience de leur vieillissement, et les lendemains soudains leur semblaient incertains. Un roi, même à l'heure qu'il trépasse, reste pour les autres une représentation et un symbole. La messe achevée, Marguerite de Bourgogne, passant pour sortir devant le capitaine de forteresse, lui dit « Messire, je souhaite vous entretenir de choses importantes et qui vous concernent. » Berzumé éprouvait une gêne chaque fois que Marguerite de Bourgogne, lui parlant, le regardait dans les yeux. « Je viendrai vous entendre, madame, » répondit-il, « aussitôt que j'aurai fait ma ronde. » Il ordonna au sergent Lalaine de reconduire les prisonnières, en lui conseillant à voix basse un redoublement tout à la fois d'égard et de prudence. La tour où Marguerite et Blanche étaient recluses ne se composait que de trois grandes chambres rondes, superposées et identiques, une par étage, avec chacune une cheminée à hôte et un plafond voûté. Ces pièces étaient reliées par un escalier en escargot qui tournait dans l'épaisseur du mur. Un détachement de gardes occupait en permanence la chambre du rez-de-chaussée. Marguerite logeait dans la pièce du premier étage et Blanche dans celle du second. La nuit, les princesses étaient séparées par des portes épaisses qu'on cadenassait. Dans la journée, elles avaient le droit de communiquer. Lorsque le sergent les eut raccompagnées, elles attendirent que les gonds et les verrous eussent grincé au bas des marches. Puis elles se regardèrent et, du même mouvement, coururent l'une vers l'autre en s'écriant « Il est mort ! Il est mort !» Elles s'étreignaient, dansaient, riaient et pleuraient tout ensemble, et inlassablement elles répétaient « Il est mort !» Elles arrachèrent leurs béguins de toile et libérèrent leurs cheveux courts, leurs cheveux de 7 mois. « Un miroir ! La première chose que je veux, c'est un miroir !» s'écria Blanche comme si elle allait être libérée sur l'heure, et déjà n'avait plus à se soucier que de son apparence. Marguerite était casquée de petites boucles noires, tassées et crépues. Les cheveux de Blanche avaient repoussé inégalement, par mèches drues et pâles, pareilles à du chaume. Les deux femmes se passaient les doigts instinctivement sur la nuque. « Crois-tu que je pourrais être jolie à nouveau ?» demanda Blanche. « Comme je dois avoir vieilli pour que tu me poses pareille question, » répondit Marguerite. Ce que les deux princesses avaient subi depuis le printemps, le drame de Maubuisson, le jugement du roi, le monstrueux supplice infligé devant elles à leurs amants, sur la grande place de Pontoise, les cris orduriers de la foule, et puis cette demi-année de forteresse, cette touffeur de l'été surchauffant les pierres, ce froid glacial depuis qu'était arrivé l'automne, ce vent qui gémissait sans répit dans les charpentes, cette noire bouillie de sarrasin qu'on leur servait au repas, ces chemises aussi rugueuses que du crin qui ne leur étaient changées que tous les 2 mois, ces jours interminables, derrière une embrasure mince comme une meurtrière, et par laquelle, de quelque manière qu'elles missent la tête, elles ne pouvaient rien apercevoir que le casque d'un invisible archer, passant et repassant sur le chemin de ronde. Tout cela avait trop fortement altéré le caractère de Marguerite. Elle le sentait, elle le savait, pour ne pas lui avoir aussi modifié le visage.